Vous écoutez, on lit pour vous.
L'art de dire non, un texte de Maud Goyer, paru le 13 août 2024 dans la presse. Par souci de plaire, par manque de confiance ou pour toute autre raison, certaines personnes craignent de dire non au travail. Si leur patron ou leurs collègues prennent connaissance de la brèche, ces employés se retrouvent souvent ensevelis de tâches supplémentaires au risque d'en payer le prix. C'est ce qui est arrivé à Cindy, une adjointe administrative du milieu manufacturier. Cindy a témoigné sous le couvert de l'anonymat, craignant des représailles ou des jugements de la part de son ex-employeur et de ses ex-collègues. Débordée après une vague de coupes dans la PME où elle travaillait depuis peu, elle n'a osé refuser les demandes de ses patrons. Elle a accumulé les retards, manqué quelques engagements, travaillé nuit et jour pour boucler la boucle, puis elle a craqué. J'ai été en arrêt de travail pendant 4 mois pour épuisement, confie la Montréalaise de 40 ans, qui est en réorientation de carrière. Avec le recul, je me rends compte que j'ai manqué de confiance pour m'affirmer et refuser le surplus. À la place, j'ai encaissé et je me suis repliée sur moi-même. Vouloir plaire. Dans plusieurs sphères de la vie, incluant le travail, dire non est un apprentissage, confirme Nicolas Chevrier, psychologue du travail. L'une des principales raisons est la peur de la réaction de l'autre et cette volonté de plaire. Certaines personnes ont un grand besoin de contrôler l'image que l'autre a d'elles, dit-il. Ce contrôle leur donne l'illusion qu'une catastrophe, comme être congédié ou quitté, peut être évitée. Malheureusement, cette peur les place dans une position inverse, car elle empêche d'avoir un portrait juste de la situation. Ainsi, dans un milieu de travail, un gestionnaire ne comprendra pas la réalité de surcharge de travail d'un employé si celui-ci acquiesce toujours à ses requêtes. Dire toujours oui fausse la donne et nuit à moyen ou à long terme au travailleur. Mettre ses limites est extrêmement important pour soi et pour l'autre, afin que tous soient au courant de la limite ou de la surcharge de travail et que des moyens sains soient déployés pour remédier à la situation, selon Nicolas Chevrier, psychologue du travail. Désapprobation et culpabilité. Selon Julie Carignan, psychologue organisationnelle et conseillère agréée en ressources humaines chez Humance, il y a 3 principales raisons pour lesquelles nous ne sommes pas toujours très doués pour dire non. D'abord, le conditionnement entre en jeu. Elle rappelle que l'être humain est entraîné à dire oui depuis son plus jeune âge, à accepter les demandes de gens qui sont en position d'autorité, que ce soit les parents ou les enseignants. Ensuite, la volonté d'être reconnu pousse à accepter les demandes. Le sentiment de quête d'approbation est fort chez chaque individu, rappelle Madame Carignan. On ne veut pas effriter la relation ou générer de la frustration, souligne l'experte. Et finalement, dire non pourrait entraîner un sentiment de culpabilité. C'est comme si on avait encore la perception que dire non, c'est s'avouer incapable, se montrer faible, vulnérable. On ne veut pas être perçu comme quelqu'un qui fait le minimum, dit Julie Carignan. Réponse émotionnelle. Pour se sortir de cette manie qui peut devenir une impasse, il faut oser répondre la vérité, avance Madame Carignan, et dire non. Tout est dans la façon, dit-elle. Il faut expliquer la raison de notre refus et parler avec sincérité. Cela aura pour effet de diminuer la frustration de notre interlocuteur. Aussi, si possible, on redirige la personne. Outre les impacts psychologiques et physiques de ne pas mettre ses limites, les autres risques incluent l'impossibilité de remplir les engagements pris ultérieurement, sortir de son champ de compétences, ou encore faire quelque chose d'injuste, de non éthique ou même d'illégal. Le psychologue Nicolas Chevrier indique qu'il y a souvent une confusion chez le travailleur entre une réponse émotionnelle et une réponse réaliste quand vient le temps d'accepter ou de refuser une demande. La première repose sur ce qu'on ressent, note-t-il, alors que la deuxième se base sur une évaluation objective des ressources en place. La personne qui reçoit un refus pourrait vivre de la déception ou de la frustration, et c'est une émotion normale au travail et dans la vie en général. L'une des clés est de réussir à se faire confiance, à prendre du recul et à ne pas prendre la situation de façon personnelle. Puisqu'après tout, à l'impossible, nul n'est tenu, comme le dit le dicton. C'était « L'art de dire non », un texte de Maude Goyer, paru le 13 août 2024 dans la presse.
Une commune de la Nouvelle-France encore en activité au Québec. Un texte de Marco Fortier, paru le 15 août 2024 dans Le Devoir. Un regroupement d'une cinquantaine d'habitations hétéroclites s'étale au fond d'un rang sur la rive sud du lac Saint-Pierre, dans la petite municipalité de Baie-du-Fèvre, dans le centre du Québec. Une impression d'étrangeté émane des lieux. Est-on le bienvenu dans cet endroit indéfinissable? Est-ce une terre privée, une terre publique? La place semble à moitié abandonnée. Qui habite dans ces bicoques brinque-ballantes sur pilotis, dans ces maisons mobiles rouillées, dans ces roulottes? En pleine crise du logement, a-t-on affaire à un campement improvisé, à une sorte de terrain de camping? Le chemin de gravier nous mène à un bâtiment paré de déclins rouges en bordure du lac. Quelques voitures sont garées dans le stationnement de Garnotte. Surprise! C'est un restaurant-bar. Allons voir. En ce midi de semaine, une odeur de bonne bouffe maison enveloppe la salle à manger, où sont attablés une vingtaine d'habitués. La dame derrière le comptoir nous accueille avec le sourire. Elle a de la jasette. Josette Gouin, gérante du resto-bar et pilier de la communauté, nous apprend l'histoire de cet endroit hors de l'ordinaire. On se trouve dans un vestige du régime seigneurial de la Nouvelle-France, plus précisément dans la commune de Baie-du-Fèvre, créée il y a plus de 300 ans sur le modèle des communes françaises. C'est une des rares communes encore en activité au Québec. Un document historique, consulté par Le Devoir, indique que le sieur Jacques Lefèvre de Trois-Rivières a mis la main sur ce territoire en 1683, devenant ainsi le seigneur pouvant donner accès à ses terres aux censitaires qui payaient un droit d'accès pour y faire paître leur bétail. Pendant trois siècles, les agriculteurs des environs emmenaient brouter jusqu'à 2000 bêtes dans les champs de la seigneurie. Les héritiers du seigneur Lefèvre ont, il y a longtemps, perdu leur droit de propriété des lieux, mais la commune de Baie-du-Fèvre subsiste sous une autre forme. Cette entité fait partie de la municipalité de Baie-du-Fèvre, mais elle a un statut différent. La commune est gérée par une corporation privée regroupant 325 membres. Ce terrain, longeant le majestueux lac Saint-Pierre, qui est une excroissance du fleuve Saint-Laurent, n'accueille plus de bétail depuis les années 1970. L'agriculture industrielle a presque éliminé le besoin de pâturage. La commune a une nouvelle vocation. Une partie de ses terres est vouée à la culture du maïs et du soya. Et le secteur en bordure de la rive est devenu un lieu de villégiature à l'allure minimaliste qui refuse le développement à outrance. communauté tissée serrée. On ne s'ennuie jamais ici, lance Josette Gouin en préparant le menu du jour du casse-croûte. Cette jeune grand-mère supervise depuis 25 ans l'établissement, qui fait salle comble été comme hiver. La saison froide est la plus achalandée, parce que le club de la Landroche, c'est le nom du restaurant d'après le nom de la rivière qui coule tout près, est le seul relais sur la piste de motoneige qui relie Sorel et Bécancour. Notre heure de fermeture, c'est quand il n'y a plus de clients, raconte Mme Gouin. Parfois, le samedi soir, le dernier motoneigiste termine son repas et sa grosse Bud Light passé minuit, et le brunch du dimanche matin commence à 8 heures. Les journées sont longues au club de la Landroche, et bien plaisantes aussi. C'est une histoire de famille. J'ai grandi avec le monde qui est ici, dit Mégane Gauthier, la petite fille de Josette Gouin, qui donne un coup de main à sa grand-mère et à sa mère Annie, serveuse au restaurant. La jeune femme de 19 ans connaît tous les clients attablés pour dîner. Elle nous montre une photo d'il y a 18 ans où elle trône dans un siège pour bébé sur le comptoir du casse-croûte. Entre ses études en documentation au cégep, son emploi à temps partiel à la bibliothèque municipale de Nicolet et ses heures au restaurant, Mégane est comme sa grand-mère. Elle ne s'ennuie jamais. Elle trouve au club de la Landroche une sorte de famille élargie. Tout le monde se connaît. Les clients sont tous des voisins, des amis. Un secret bien gardé. Josette Gouin nous fait visiter la commune. L'esprit des lieux rappelle un camping, mais il n'y a pas de barrière à l'entrée. Les bâtiments, la plupart rudimentaires, d'autres plus élaborés, appartiennent à des membres de la commune qui louent une parcelle de terrain pour stationner leur roulotte ou ériger un camp de chasse ou de pêche. Certains viennent une ou deux fois par année. D'autres passent l'été ici, ou des fins de semaine. Certaines habitations sont branchées au réseau d'Hydro-Québec. Plusieurs sont munies de grands réservoirs de 250 gallons remplis d'eau de pluie ou de sources. L'eau courante reste l'exception. Ce petit coin de paradis est un secret bien gardé, du moins hors du centre du Québec, et les gens de la commune tiennent à préserver leur tranquillité. Un circuit de randonnée, surnommé le Compostelle du lac Saint-Pierre, passe près d'ici. Des résidents accueillent parfois des randonneurs ou leur permettent de planter leur tente. Un invité a déjà publié sur les réseaux sociaux des photos de son campement temporaire. Le lendemain, plein de gens sont venus pour faire du camping, déplore Josette Gouin. Un gros véhicule récréatif s'est immobilisé sans autorisation sur un terrain cachant une fosse septique qui a défoncé. Des terres convoitées. L'endroit suscite la convoitise. Dans les années 1960, il a été question de céder la commune à des promoteurs immobiliers. À la même époque, l'entreprise québécoise La Dubourreau a aussi cherché à faire de la prospection de pétrole dans le secteur. Les administrateurs de la commune ont toujours privilégié la protection des milieux naturels, explique Francine Hébert, secrétaire de la corporation qui gère les lieux. Elle rappelle que le lac Saint-Pierre est reconnu par l'UNESCO comme une réserve mondiale de biosphère. L'organisme Canards Illimités il y a aussi aménagé un sanctuaire pour accueillir des dizaines de milliers d'oiseaux migrateurs qui s'arrêtent chaque printemps dans le secteur, une véritable attraction touristique dans la région. En 1953, le gouvernement fédéral a tout de même exproprié près des 3/4 du territoire de la commune pour aménager un champ de tir de la Défense nationale. Une entreprise de déminage cherche et trouve encore des obus non explosés dans le lac Saint-Pierre. Les démineurs logent dans des roulottes de construction installées dans la commune. En voie de disparition. Une poignée de communes issue du régime seigneurial, reste active au Québec, explique Rodolphe de Coninck, professeur de géographie à la retraite. Ces reliques de la Nouvelle-France sont toutes au lac Saint-Pierre et dans les îles de Berthier et de Sorel. Le géographe de 81 ans, sommité dans son domaine, a consacré sa thèse de maîtrise à la région de Baie-du-Fèvre en 1967. Il est revenu sur les lieux en 2000 pour approfondir ses recherches. J'avais été étonné de découvrir des communes. À l'époque, c'était des sociétés un peu fermées, raconte-t-il. En plus de Baie-du-Fèvre, trois communes restent en place à Berthier, à l'île du Pas et à l'île du Moine. Quelques bêtes passent l'été dans les pâturages, mais il s'agit surtout désormais d'endroits de villégiature. Le géographe se souvient d'une époque pas si lointaine où des dizaines de bovins et de moutons étaient emmenés chaque été pour brouter l'herbe des îles. La qualité des sols, alimentée par le limon transporté par la crue printanière des eaux, a sans doute contribué à la longévité des communes dans la région, estime M. de Coninck. Ces créatures, d'une autre époque, semblent aujourd'hui des espèces menacées. C'était Une commune de la Nouvelle-France encore en activité au Québec, un texte de Marco Fortier, paru le 15 août 2024 dans Le Devoir.
Le nombre, les livres et la solidarité. Un texte d'Élie San, paru le 4 juillet 2024 dans Le Devoir. Madame Denise est installée au même poste informatique qu'à l'habitude. Elle cherche un nouveau logement depuis plusieurs mois déjà. Par chance, la date de son bail dépassait le 1er juillet. Son inquiétude était tout de même légitime et palpable, récemment. C'est qu'en plus de louer leur logement à des prix exorbitants afin de rentabiliser leurs dépenses hypothécaires en dedans de 5 ans, les proprios préfèrent répondre sèchement à ses courriels plutôt que de la rappeler. La situation est absurde pour quelqu'un qui n'a pas accès à un ordinateur chez soi. Madame Guylaine est assise juste en face. À la recherche d'un emploi, elle doit télécharger son CV sur différentes plateformes qui ont chacune leurs propres exigences, leurs propres particularités et leurs propres complexités. Il faut payer pour imprimer des papiers, signer des papiers, numériser des papiers, renvoyer des papiers, puis attendre un miracle. Monsieur Roger, qui occupe le troisième poste disponible, souhaite s'inscrire à des cours en ligne. Il a initialement tenté de le faire en personne, sur place, mais le réceptionniste a insisté pour qu'il passe par le web. En 2023, il avait suivi avec nous des cours informatiques de base afin de pouvoir utiliser un clavier et une souris, minimalement. Selon toute vraisemblance, il a été prévoyant. Abandon. Outre leur niveau de détresse élevé, ces personnes représentent surtout de manière concrète l'abandon de la population générale par les différents ordres de gouvernement. Que ce soit clair, il n'est plus seulement question de l'abandon par la classe politique des personnes les plus vulnérables. Il est question de l'abandon de quiconque n'est pas blanc et riche. Et si vous vous demandiez où elle se trouve, la majorité de cette population abandonnée par les dirigeants en qui elle avait confiance, ne cherchez plus. Elle converge en bibliothèque publique. Les ados profitent de nos espaces et de notre Wi-Fi public. Les jeunes en difficulté dans un système scolaire tenu à bout de bras par les enseignantes viennent faire leurs devoirs après l'école. Les personnes qui peinent à manger 3 fois par jour viennent bouquiner sans se ruiner. Avec leurs enfants, les parents participent à nos activités, faute d'avoir trouvé une place en garderie. Les femmes viennent discuter des agressions impunies qu'elles ont vécues au sein des cercles de lecture féministe. Les personnes issues des communautés LGBTQ+, viennent découvrir des voix qui leur ressemblent. Les universitaires se sauvent de leurs 3 colocataires à la recherche d'un peu de quiétude chez nous. Les personnes immigrantes, remplies de bonne volonté, viennent emprunter des méthodes pour apprendre le français tard le soir lorsque les enfants sont couchés. La liste est encore longue, bien sûr, mais l'essentiel y est. Les bibliothèques représentent l'un des rares filets sociaux encore en place au Québec. les trop nombreux coups de hache libérales, péquistes ou caquistes des dernières décennies ont eu raison de toutes les autres infrastructures. L'isolement social et la précarité sont des phénomènes qui prennent actuellement des proportions catastrophiques. Mais les boucs émissaires, lire ici des personnes trans et des personnes immigrantes, pointées du doigt par les hommes de pouvoir, ne bernent personne. Alors, tout n'est pas joué. Nous avons le nombre, les livres et la solidarité de notre côté. Pour Madame Denise, pour Madame Guylaine, pour M. Roger et pour tous les autres. C'était « Le nombre, les livres et la solidarité », un texte d'Ellison, paru le 4 juillet 2024 dans Le Devoir.
Sid Mora entraîne les personnes LGBTQ+. Une entrevue réalisée par Samuel Larochelle, parue le 4 septembre 2024, dans le magazine Fugue. L'entraînement physique a changé la vie de Sid Mora. Non seulement ses séances de gonflette lui ont permis de s'éloigner de l'alcoolisme, mais le gym lui a également permis de modeler son corps comme Yel en rêvait durant sa transition non-binaire. Depuis 2 ans, Sid met ses connaissances en entraînement et sa compréhension fine des enjeux « queers » au service des personnes LGBTQ+. Comment ton intérêt pour l'entraînement physique est-il apparu? Sid Mora. Plus jeune, je n'avais aucun intérêt pour le sport. C'était un trauma associé à la performance et aux stéréotypes de genre. À 17 ans, je suis tombée dans l'alcool, profondément, jusqu'à mes 24 ans. L'entraînement est arrivé dans ma vie à 22 ans, alors que je buvais encore. Peu à peu, ça m'est apparu comme quelque chose que je pouvais faire de manière obsessive, un peu comme ma consommation, mais qui me permettait d'aller dans l'autre sens. À ce moment-là, je n'avais rien auquel me rattacher et qui me permettait de me voir évoluer dans quoi que ce soit. L'entraînement a été un moyen de reprendre le contrôle. Quel rôle l'entraînement a-t-il joué dans ta transition? C'était extrêmement important. Je me considérais déjà comme non-binaire, mais je vivais une transphobie internalisée qui m'empêchait de beaucoup de choses. J'avais un blocage à l'idée de prendre des hormones. Je croyais que ça donnait raison aux transphobes qui disent que prendre des hormones est un échec et que j'avais craqué sous la pression du sexisme en cherchant à rentrer dans le moule. Et puis, à force de m'entraîner, j'ai compris les limites du corps que j'avais à ce moment-là. J'avais besoin et envie de prendre de la testostérone. Sans cette hormone, même avec tout mon entraînement, je ne me sentirais jamais bien dans mon corps. Je suivais des femmes qui sont des athlètes incroyables. Je les regardais avec beaucoup d'admiration. Mais ce n'était pas ce que je voulais être. Sur ton site web, on peut voir l'évolution impressionnante de ton corps. Faut-il s'entraîner comme un athlète pour obtenir de tels résultats? Il faut savoir que je ne suis pas une personne neurotypique. J'ai beaucoup d'obsessions et de pensées intrusives. J'ai besoin de répéter des choses, car ça me rassure. C'est un peu ce côté obsessionnel qui apporte la discipline nécessaire pour avoir des résultats comme les miens. Quelle formation as-tu dans le domaine? Je me suis entraînée pendant 6 ans avant d'aller chercher une formation. Mes amis me suggéraient de le faire professionnellement, mais j'avais un blocage. J'ai arrêté ma scolarité à 18 ans. Je ne suis jamais allée à l'université et j'avais prévu de ne jamais retourner à l'école. Je pensais aussi ne pas posséder les compétences, mais à force de rencontres, j'ai compris que j'étais tout à fait capable et que je n'avais pas besoin d'aller à l'université. J'ai passé un certificat en conditionnement physique et entraînement privé. Pourquoi te concentres-tu sur les personnes LGBTQ+? L'activité physique peut faire du bien à tout le monde, mais pour les personnes queer, c'est un outil sous-valorisé. Ça permet de se reconnecter avec son corps, de reprendre le contrôle de son corps, de le modeler et de gérer des difficultés psychologiques. Presque systématiquement, elles n'ont pas accès aux services des gyms en raison de la mentalité autour du fitness, qui est souvent à l'opposé des valeurs d'égalité queer, des visions anti-gros ou de l'inaccessibilité financière. Je propose mes services à ces personnes souvent marginalisées. Comment personnalises-tu le programme d'une personne trans? Très souvent, il y a un besoin de reconnexion avec le corps et de se sentir bien dans son corps et dans sa tête. Ensuite, les personnes trans veulent remodeler leur silhouette pour qu'elles correspondent à l'image qu'elles ont du féminin ou du masculin, ou tout simplement pour obtenir un corps qui correspond à leurs désirs. J'adapte mon entraînement à leurs besoins en ayant un discours inclusif. Et je comprends plusieurs enjeux trans en raison de mon propre parcours trans. Qu'offres-tu de différent aux autres personnes queer? C'est beaucoup dans le discours, la compréhension et l'accessibilité de mes services. Souvent, les personnes queer ne sont pas celles avec le plus de moyens. Alors, je veux offrir mes services en m'adaptant à leurs revenus. Mes tarifs sont en dessous des tarifs réguliers. Et si une personne ne fait pas partie des communautés queer, si elle n'est pas grosse et si elle a les moyens de payer un entraînement régulier, évidemment qu'elle a le droit de s'entraîner. Mais je préfère me concentrer sur les personnes queer ou celles à moyens faibles ou modérés. Quels sont tes services? J'offre une consultation gratuite. On parle des besoins et des limites de la clientèle. Ensuite, les gens peuvent réfléchir de leur côté avant de me revenir. Puis, j'offre des programmes sur mesure et des programmes avec séances accompagnées. Info sidcoaching.com cyd-coaching.com C'était Sid Mora entraîne les personnes LGBTQ+. Une entrevue réalisée par Samuel Larochelle, parue le 4 septembre 2024 dans le magazine Fugue.